Comment on traitait la peste dans l'ancien temps par Robert Francheville. La peste est de nouveau à l'horizon. Les épouvantables ravages qu'elle exerce en Mandchourie nous reportent à 10 siècles en arrière et nous prouvent que son règne n'est pas fini. Voici déjà plusieurs années que cette sinistre rôdeuse a reparu et qu'elle semble nous guetter de loin avec des yeux d'envie sans pourtant se hasarder à nous attaquer. Mais contre nous, elle ne se sent plus en force. Elle redoute notre hygiène et sent bien que grâce au sérum de roux et de hyersin, aucune hécatombe de civilisé ne saurait à l'avenir relever son affreux prestige. Jadis, en effet, tout pays était son domaine et tout être humain sa proie. C'était l'effroyable souveraine à laquelle nulle science n'avait la prétention de tenir tête. Les esprits, perpétuellement inquiets, tiraient de chaque phénomène de la nature les présages relatifs à ce fléau. Et selon la conjonction ou l'éclat des astres, la couleur du ciel, l'abondance des insectes et des plantes, la mortalité des animaux, l'émigration des oiseaux et des taupes, la nuance de la peau des grenouilles, les tremblements de terre, les pluies, les météores, etc., il conclut avec terreur que la peste était imminente. Alors, la peur détraquait les cerveaux. Les uns fuyaient leur maison, quittaient leur métier ou leur commerce, sans souci de la ruine. Les autres, se fiant aux charlatans et aux sorciers, absorbaient d'invraisemblables drogues qui les empoisonnaient. Le peuple assiégeait les églises pour conjurer l'ire de Dieu et les boutiques d'apothicaires pour acheter du bézoar animal, de la crapaudine ou de l'alcool viperarum. Les plus doctes médecins y perdaient leur latin et, conscients de leur impuissance, étaient souvent les premiers à prendre la fuite et à déserter leur poste. Les médecins n'y veulent pas seulement penser. Ils en écrivent de beaux traités et, quand le mal s'échauffe, ils se mettent en fuite et quittent leur ville, abandonnant leurs malades. L'imagination surexcitée centuplait la gravité des moindres symptômes, et dans chaque affection, même bénigne, voyait l'indice du fléau. La crainte de la peste faisait presque autant de victimes que la peste elle-même, s'il faut en croire une vieille légende fort curieuse et fort ironique. Un cavalier, raconte cette légende, allait de Beyrouth à Damas lorsqu'il rencontra sur le bord du chemin une horrible vieille en haillons qui se lamentait de ne pouvoir aller jusqu'à Damas. Pris de pitié, le cavalier la fit monter en croupe derrière lui et tout en causant pendant le trajet lui demanda qui elle était. « Je suis la peste noire, » répondit négligemment la vieille. Le jeune homme épouvanté voulut la jeter à terre, mais elle lui promit en récompense de sa bonne action d'épargner sa vie et même de ne faire que 100 victimes dans la ville de Damas. Le surlendemain, 200 cadavres pourrissaient déjà dans les rues. Le cavalier, indigné d'un tel manque de parole, rencontra la vieille et lui reprocha violemment cette trahison. « Mais je n'en ai réellement tué que 100, » répliqua la peste. « Les autres sont morts de peur. » Dans le même ordre d'idées, Francisque Sarcey écrivait en 1897, au moment de la peste de Bombay, qui fit 4000 victimes, « Ce qui vaut mieux que tous les sérums, pour garder nos villes de la peste, c'est la force de caractère et la sérénité d'âme. Ce sont les peureux et les affolés qui payent le premier tribut à l'épidémie. La première précaution à prendre contre la peste, c'est de ne pas en avoir peur. » Il avait raison. Mais tout cela est bien facile à dire à notre époque insoucieuse, sceptique et antiseptique. Autrefois, il n'en était pas de même, de par les fermes croyances du peuple. La peste était considérée comme un châtiment envoyé par Dieu, ou comme une malice du démon. Et il était presque impie et sacrilège de ne pas en avoir peur. C'est ainsi que dans un traité publié à Toulouse en 1629, Jean Fabre affirmait que les causes de la peste étaient souvent supernaturelles. Dieu en est le producteur. Les anges aussi en ont souvent le commandement de Dieu, de produire le même venin. Les démons aussi en ont la permission. Les sorciers et magiciens peuvent aussi, par permission divine, avec l'aide des démons, auxquels ils adhèrent, et peuvent être mis au rang des causes efficientes de la peste. Et plus loin, Fabre consacrait gravement un chapitre au diable et à ses serviteurs, concluant que, fort heureusement, ces malins esprits ne pouvaient répandre le mal qu'avec la permission de Dieu. Chapitre 9. Si les diables et sorciers peuvent produire la peste. Ce préjugé fut maintes fois la cause de massacres en Allemagne et en Italie. Les malheureux désignés comme étant des semeurs de peste furent tués, et l'on retrouve même, dans les registres du Parlement de Toulouse, des jugements en bonne et due forme condamnant ce crime. En 1530, un nommé Cadoz, semeur de peste, fut tenaillé, décapité et écartelé. Et en 1545, le sieur Lanty, accusé de maléfice, expira dans les plus affreuses tortures. La peste, donc, étant d'essence divine, il était logique qu'elle fût annoncée par des phénomènes célestes plus ou moins extraordinaires. C'est ce qui ne manquait pas d'arriver, tant il est vrai que les yeux effrayés voient des choses effrayantes. Tous ceux qui vivaient au XVIe siècle se rappelaient fort bien, par autosuggestion, cette comète qui apparut l'11e jour d'octobre 1527, de l'horreur de laquelle plusieurs moururent de peur, et les plus asseurés en vinrent malades. Elle ne dura qu'une heure un quart, commença à se produire du côté du soleil levant, puis tira vers le midi, occident et septentrion. Elle était de longueur excessive, et si elle était de couleur de sang, au bout d'icelle, il paraissait un bras courbé, tenant une grande épée en la main comme s'il eût voulu frapper. Et au bout de la pointe de ce couteau, il y avait trois étoiles situées en triangle. Mais celle qui était sur la pointe était très claire et luisante, et tous les côtés de ces trois étoiles paraissaient quantité de haches, de couteaux, de poignards, des épées, des hallebardes colorées et teintées de sang, avec quantité de têtes humaines hideuses avec leurs barbes et cheveux hérissés. C'était en effet un spectacle fort terrible, que nous ne pouvons guère nous offrir de nos jours pour faire vibrer nos sens blasés. Et le témoin qui avait vu cela de bonne foi, et qui lui jurait sur l'honneur, ajoute que cette comète prodigieuse fut naturellement suivie de guerre, de famine et de pestilence, et que la plus grande partie de l'Europe en fut ravagée. Jean Fabre, en son traité, affirme l'infaillibilité de ces présages merveilleux. « Depuis l'an 1618, dit-il, nous avons vu des comètes au ciel, très hideuses, des poutres de feu, des dragons, des fantômes épouvantables, des tourbillons en terre, si furieux qu'ils ont emporté des moulins à vent et des maisons entières, arraché des arbres et des vignes, enlevé de gros animaux, sans épargner les hommes. Nous avons vu tant de monstres prodigieux, tant humains que autres. Nous avons pâti de tant de guerres, et enfin nous pâtissons la peste, ce qui me fait croire et assurer que les comètes, feux volages, tremblements de terre, inondations, sont les vrais avant-coureurs et signes de la peste que les astres produisent. » D'accord avec tous les médecins et astrologues de l'époque, il attribue un immense pouvoir aux astres et aux planètes, et lit dans les constellations la funèbre sentence de l'humanité condamnée. En cette présente année 1628, Saturne et Mars sont conjoints au mois de septembre en la sixième maison avec des aspects malins à la Lune et au Soleil. La Lune ayant éclipsé au mois de janvier précédent, lequel éclipse nous avons vu, et encore ayant éclipsé une autre fois le 16 juillet de la présente année, et le Soleil par trois fois, la première le 6 de janvier, la deuxième le 1er de juillet, et la troisième le 25 de décembre, qui se verra aux parties occidentales, vers l'Angleterre, Écosse et vers l'Afrique. Le tout ne nous présage que de grands malheurs en ce globe inférieur qui sera plein de guerres, de famine et de peste, d'où plusieurs seront très maltraités et seront contraints d'aller visiter l'autre monde si Dieu n'a pas pitié de nous par sa sainte miséricorde. Or, cette miséricorde divine, si efficace qu'elle pût être, ne constituait pas un antidote suffisant pour guérir les pestiférés sans autre remède. Rendant la confiance aux malades et rasséréner son âme troublée, était à coup sûr une action fort utile. Mais il eût mieux valu s'occuper de son corps souffrant avant de mettre sur son âme ce baume spirituel qui ne servait qu'à lui rappeler le danger de mort où il se trouvait. Après que le chrétien sera muni de ses antidotes spirituels, dit un médecin, se confiant en Dieu, gouverneur de toutes choses, remettant le tout à sa volonté et à son gouvernement, il aura recours à la médecine. Il eût pu ajouter, s'il en est encore temps. À Rome, au XVIe siècle, on exagérait encore davantage cette dévotion funeste. Le premier soin d'un médecin en arrivant au chevet d'un pestiféré était de lui demander s'il s'était confessé depuis peu, sans quoi il ne commençait pas le traitement, quelle qu'en soit l'urgence. Le malade était alors tenu de faire sur le champ la communion, et pendant ce temps le mal empirait. Le médecin s'engageait par serment à soigner l'âme tout autant que le corps. Il était en quelque sorte responsable du salut de ses malades, et devait les décider à communier tous les trois jours. Ce qui prouve qu'on avait plus confiance en Dieu qu'en les médecins, voire les médecins eux-mêmes, non sans raison d'ailleurs. Car lorsqu'on lit les graves dissertations qu'ils écrivaient sur les causes de la peste, sa nature et sa thérapeutique, on n'est pas éloigné de croire qu'ils tuaient plus de malades qu'ils n'en guérissaient. Il est évident qu'ils confondaient souvent la peste avec d'autres affections plus ou moins similaires. Toutes les terribles hécatombes que l'on a mises sur le compte de ce fléau peuvent être vraisemblablement attribuées à la petite vérole, au choléra, au typhus ou à diverses fièvres pernicieuses. Toute épidémie violente prenait le nom de peste, C'est du moins ce que divers auteurs laissent à supposer, entre autres Mercurialis, qui prétend qu'une épidémie ne doit point être honorée du titre de peste tant qu'elle ne fait pas plus de 5 victimes par jour. Fabre, dans son traité, s'étonne de ne jamais trouver les mêmes symptômes chez ces divers malades, ce qui nous fait croire être véritable, dit-il, que la peste est toutes sortes de maladies causées par de diverses causes vénéneuses et pernicieuses. Paracelse, qui était une autorité compétente en la matière, avait, dès le XVe siècle, compris la peste d'une façon beaucoup plus simple et logique que ses successeurs. Selon lui, la peste, c'est toute maladie maligne, pernicieuse et venimeuse, qui jette son venin en 6 endroits du corps, savoir, derrière les oreilles, aux 2 aisselles et aux 2 aines. Il veut désigner ainsi les bubons, qui caractérisent la véritable peste, et son opinion est raisonnable. Plus loin, le même Paracelse invente une comparaison assez pittoresque entre les comètes du ciel et la peste qu'il nomme les comètes du petit monde. Le passage est vraiment curieux. Comme la comète du grand monde provient du venin et malignité des vapeurs qui s'élèvent de l'esprit vital de la terre vers le ciel, et là montre son feu et son ardeur, ainsi la peste, dedans l'homme, s'élève des vapeurs malignes et vénéneuses du baume vital de l'homme vers la superficie de son corps, où il montre son feu et son ardeur en bosses et carboncles qui sont à l'homme tout autant de comètes pestilentes et malignes qui lui présagent une mort présente ou pour le moins beaucoup de troubles, et de guerre civile et intestine dans son propre corps, ce que les pauvres pestiférés peuvent assez assurer et témoigner à leur grand dommage. Donc, lorsqu'un auteur ancien décrit une peste qui n'est caractérisée extérieurement par aucun bubon, il est à peu près certain qu'il se trompe et que ce n'est pas la peste. L'histoire même se charge d'en fournir la meilleure preuve. Les observations et les récits relatent souvent que telle épidémie frappa surtout les femmes ou les enfants, comme celle de Milan en 1566, que telle autre ne s'attaqua qu'aux hommes sains et vigoureux, peste de 1660 en Allemagne. Qu'une peste enfin régna sur les bêtes à cornes et tua même les plus robustes. Notre vocabulaire médical étant plus riche et plus usuel qu'autrefois, il nous est facile, dans chacun de ces cas particuliers, de substituer au mot peste, très vague, des termes plus précis. Par exemple, rougeole, croupe ou diarrhée, s'il s'agit des enfants, variole, typhus ou même influenza, pour les adultes, clavelée, morve, rage, pépi ou fièvre afteuse pour les animaux. Et voilà ce fléau divin réduit aussitôt à des proportions moins apocalyptiques. Il ne faut pas en effet prendre au pied de la lettre les exagérations de quelques écrivains en émoi et de quelques médecins à court de science, qui, embarrassés par une maladie qu'ils ne connaissaient pas, trouvaient plus simple de diagnostiquer la peste pour masquer leur ignorance et dégager leur responsabilité. De nos jours, l'influenza, qui s'appelle maintenant la grippe, a joué complaisamment le même rôle élastique. Au Moyen-Âge, on l'eût baptisé peste sans hésiter. Il n'en est pas moins vrai, toute réserve gardée, que la peste, la vraie, exerça de terribles ravages. L'atmosphère charriait pendant la nuit des germes si virulents que le docteur Schacht, à l'aide, au XVIIe siècle, empoisonnait des chiens, rien qu'en leur faisant boire de l'eau pure, exposée quelques heures à l'air nocturne. En d'autres temps, cette eau aurait conservé sa pureté, mais dans ce temps contagieux, elle s'altérait. Il s'y formait une écume ou une espèce de crème surnageante. Cette matière mousseuse était un poison des plus terribles. Aussi, tous les médecins recommandaient-ils de ne jamais sortir une fois le soleil couché. Ces expériences, qui prouvaient nettement que l'air était un poison mortel, contribuaient à augmenter la frayeur générale. Les poumons n'osaient pas se dilater de peur de respirer la mort. C'était comme un lourd fardeau d'angoisse qui oppressait toutes les poitrines. Fort heureusement, les bêtes immondes étaient là, pour corriger, croyait-on, la violence du venin et pour fournir des antidotes. Tous les crapauds, grenouilles, serpents, araignées, lézards, chenilles et autres bestioles venimeuses qui sont en la nature ne servent de rien de plus que pour attirer tout le venin de l'air et le consumer. Autrement, nous serions en perpétuelle peste si ces aimants naturels ne purifiaient l'air des substances malignes et venimeuses que les malignes influences y jettent continuellement. L'auteur va même plus loin. Dans sa théorie, et s'appuyant sur l'autorité d'Ambroise Paré, il ajoute « Il est arrivé en plusieurs lieux où la peste était très grande et furieuse, que les corps des pestiférés demeurant sans sépulture, les bêtes mortes et cadavres fiants et fumiers, et telles autres pourritures qui étaient parmi les rues et dans les maisons, ont attiré tout le venin pestilentiel qui était parmi l'air, l'ont consumé et changé en une autre nature, et la peste, par conséquent, a cessé. Singulière façon d'envisager la guérison d'une épidémie. Par contre, Torella, en 1744, affirmait qu'en multipliant le nombre des hôpitaux, on multipliait les foyers pestilentiels, et qui enfermaient des malades s'étaient livrés sans défense à la contagion. Il n'est pas étonnant qu'avec de pareils préjugés, on ne parvint pas à circonscrire le fléau. Il est vrai que les hôpitaux n'étaient pas fort proprement tenus et qu'ils ne disposaient pas comme aujourd'hui de sommes considérables. Cependant, on se rendait compte que l'hygiène et la propreté des rues et des maisons pouvaient sauvegarder l'état sanitaire des villes, et pendant le Moyen-Âge, un grand nombre d'édits furent vainement rendus à ce sujet. Le médecin allemand Schiller, en 1720, demandait un peu moins de prières et beaucoup plus de prophylaxie. Citons encore les énergiques mesures que Jean Fabre réclamait des magistrats toulousains. Après la visite des lieux infects et leur nettoiement, dit-il, les magistrats doivent jeter hors de leur ville tous les gueux, fainéants et tout le reste de cette canaille qui ne veulent pas vivre selon Dieu, ni selon les règles de la sobriété humaine et tempérance. Toute cette sorte de peuple doit être rejetée hors des villes comme pourriture infecte, laquelle la peste attaque premièrement, fonde en nacelle sa base pour y établir et dresser de très fortes colonnes. Jean Fabre prescrivait également, dès que la peste avait éclaté, d'allumer de grands feux, suivant l'exemple des anciens, parce que le feu attire à lui l'humidité de l'air et en même temps le venin pestilentiel que contient cette humidité. Il brûle ce venin, neutralise sa malignité, le purifie et même le transforme en antidote, selon la doctrine des médecins spagyriques, c'est-à-dire ceux qui traitaient les maladies par des sels chimiques. Cette doctrine spagyrique enseignait que chaque venin porte en lui-même son antidote. Il suffisait seulement de le réduire en cendres, par calcination chimique, pour lui donner un pouvoir bienfaisant sur le mal qu'il avait fait. Par exemple, la cendre du crapaud guérissait sa morsure. Et s'il en était mordu par une vipère, il fallait sans tarder la faire cuire à l'étuvée, jusqu'à ce qu'on obtînt une poudre noire qui, appliquée sur la blessure, calmait aussitôt l'inflammation. En prolongeant la calcination, on obtenait le sel du venin beaucoup plus efficace que la cendre. Guy de la Brosse, Fabre, Potel, Citois et bien d'autres considéraient le sel des venins naturels comme le meilleur antidote de la peste. Le mot « venin », chez ces auteurs, semble être souvent pris dans le sens d'animaux venimeux. Donc, en calcinant des crapauds, des lézards, des serpents, des chenilles, des araignées, des limaçons ou des escargots, on obtenait un sel qu'on prenait à raison de 10 grains dans une once d'eau thériacale pour se guérir de la peste. Mais avant d'accomplir la calcination de ces venins, il urgeait de consulter les astres, car cette opération, pour être fructueuse, ne devait être faite qu'à une époque déterminée, celle où le soleil et la lune se trouvaient dans la constellation du scorpion. C'est toujours à ce moment qu'il faut préparer les antidotes contre la peste, car le scorpion céleste est celui qui domine sur tous les venins et l'efficacité est bien plus grande. Voici comment on obtenait cette cendre merveilleuse. Il faut prendre un vieux crapaud vivant et l'agiter longtemps dedans un vaisseau plombé auquel il y aura un peu de son, et continuer de le battre jusqu'à ce qu'il meure. L'ôter et le laver avec eau de sauge, puis le mettre dans un vaisseau neuf, bien couvert, et lutter avec un peu d'origan au feu tant que la calcination en soit faite. Le sel de l'urine d'un enfant de moins de 7 ans, le linge gâté d'une fille en ses premières purgations, le sang de la belette, l'extraction du cœur de bouc confit en son sang, et enfin, le sel extrait du sang d'un pestiféré était également considéré comme des bézoards qui sont antidotes et contrepoisons de la peste. La poudre d'yeux d'écrevisse et la poudre de l'armier de serre jouissaient, paraît-il, d'un grand pouvoir spécifique. C'étaient des bézoards, surtout la seconde. Cette poudre provenait d'une concrétion lacrymale qu'on ne trouvait que dans les yeux des vieux cerfs âgés de plus d'un siècle. Ainsi que l'expliquait M. de Lamperrière, le cerf poursuivi et se trouvant pressé aux abois, larmoie comme animal timide et craintif, lesquelles larmes se congèlent au coin des yeux, s'endurcissant à guise d'ambre, laquelle congélation il faut mettre en poudre et en prendre 2 drachmes avec de l'eau de charbon bénie. Un autre remède, réputé souverain, mais à l'usage exclusif des gens riches, était de boire de l'or. Voici la recette de l'or potable. Il faut dissoudre l'or par l'eau régale, jetée dans la dissolution de l'huile de tartre. On met le tout en bouteille avec de l'eau claire afin que l'or tombe en poudre jaunâtre au fond. On passe le tout à travers un filtre de papier gris dans un entonnoir de verre, de façon que l'or reste sur le papier. On le lave bien à l'eau claire, puis on sèche la poudre au soleil. On prend ensuite 4 grains d'or dans de l'eau scabieuse ou dans une cuillerée d'eau thériacale. Et le même auteur, qui sans doute taquinait quelque peu la muse, ajoutait, à la fin de son chapitre, pour égayer son lecteur tout en l'instruisant, cet agréable petit quatrain. La fleur de l'antimoine préparée et celle du mercure sublimé préservent malades et saints du lendemain de la Toussaint. Or, à côté de ces remèdes empiriques qui semblaient élaborés par des alchimistes de contes de fées, il en existait d'autres un peu moins extravagants mais combien plus compliqués. Témoin, la façon de l'auteur Lampérière de Rouen soignait les pestiférés au début du XVIIe siècle. Dès les premières atteintes du mal, il leur donnait une drachme de bonne thériarque avec 8 ou 9 grains de bézoar oriental. Le malade devait ensuite transpirer pendant 3 heures et prendre un bouillon clair, puis un lavement. On le saignait à la veine basilique du bras droit. Peu après, on lui administrait la potion suivante. 1 drachme de hyacinthe, 1/2 drachme de scorzonère en poudre, 7 grains de licorne, 1 once de sirop de limon, 1 once de chine et 2 onces d'eau de tête de cerf. Après avoir sué de nouveau, le patient absorbait un bouillon léger avec de l'oseille, du jus de citron et de la pimpinelle, et au bout de 3 heures, la même potion que précédemment avec de l'eau thériacale. Enfin, en dernier recours, on lui donnait du bézoar animal, quand on en avait les moyens, car cela coûtait fort cher. Pour pratiquer la saignée, il fallait, selon Fabre, prendre garde que la lune ne fût ni dans la constellation des jumeaux, du sagittaire ou du scorpion, ni conjointe avec Mars ou Saturne, sans quoi de graves complications pouvaient s'en suivre. Le traitement végétal avait aussi de nombreux partisans. Beaucoup de plantes passaient, à tort ou à raison, pour résister aux venins pestilentiels parmi lesquels la vigne et le raisin, le gui, le pourpier, les orties, l'asperge, le frêne, le pin, le chêne, le cèdre, les ronces, le poireau, l'absinthe, la rose, la violette, le souci, l'œillet, l'oignon, le poivre, la grenade, l'orange, la noix, le gland, la pervenche, etc., etc. François Valériol, en 1566, préconisait l'usage des simples et eut voulu que la chambre d'un pestiféré fût tapissée de fleurs, de fruits et de feuilles. « J'ai connu, dit-il dans ses observations, un Allemand à Paris qui conservait et servait les malades en la rue des Vignes, au faubourg Saint-Marceau, auquel ils avaient été relégués, pour ne pouvoir, à cause de la multitude, être reçu en l'Hôtel-Dieu, lequel, pour tout préservatif, ne prenait que de la poudre d'absinthe dissoute dans sa propre urine. Un remède moins répugnant, en usage au XVe siècle, consistait à faire prendre aux pestiférés des baies de laurier bien mûres et des pistaches avec du sel, le tout délayé dans du vin s'il avait froid, dans du vinaigre s'il avait la fièvre. Torella, au XVIIe siècle, ordonnait fréquemment la potion suivante à raison d'une cuillerée toutes les 2 heures. Prenez 2 polimenta de bouc récemment tué et 1 livre de sa peau coupée par morceaux un peu gros, 2 onces de camphre, 1/2 livre de bonne thériarque, 1 douzaine de gros citrons coupés en 4, de la rue, de la sauge, romarin, hysope, absinthe, menthe et racine d'angélique, de chacune 1 poignée, des baies de genièvre, de la coriandre 2 poignées. Faites infuser le tout dans 6 pains du plus fort vinaigre pendant 8 à 10 jours, dans un vaisseau de terre bien bouché et exposé au soleil, puis après, distiller à feu ouvert dans une cucurbite de terre vernissée et garder cette distillation dans une bouteille de verre bien bouchée. C'est ce qui peut s'appeler un remède de cheval. Si l'on n'avait pas la précaution de le préparer d'avance pour l'administrer immédiatement, au bout des 10 jours, le malade était mort ou guéri. Mais on pouvait toujours, en attendant, le purger avec du mercure et lui laver le corps 1 fois par semaine avec du vinaigre, du vin chaud ou de l'eau-de-vie. Au Moyen-Âge, on buvait relativement peu d'eau-de-vie, mais on l'employait beaucoup en friction et lotion pour l'usage externe. Au 1er siècle, un médecin de Tars, en Asie mineure, nommé Philon, employait contre la peste un électuaire calmant dont on se servait utilement très longtemps après lui. Il en laissa une description en figurique que ses successeurs eurent grande peine à traduire. C'est une véritable charade qu'il est amusant de citer. Prenez des cheveux roux et odorants du jeune garçon dont le sang est encore répandu dans les champs de mercure, le poids d'autant de drachmes que nous avons de sens, ce qui signifie, paraît-il, 5 drachmes de safran. D'une opium euboïque, 1 drachme, traduisez, du pire être. Autant du meurtrier du fils de Métus que l'on conserve dans des ventres de brebis, le forbe. Ajoutez 20 drachmes de flamme blanche, du poivre blanc, et autant pesant de fèves de pourceau d'Arcadie, jusqu'am. Avec une drachme de la plante qui est faussement appelée racine et qui vient d'un pays nommé à cause de Jupiter Piséen, Spicanardi. Écrivez pium et ajoutez à la tête de ce mot l'article masculin des Grecs, opium. Prenez 6 drachmes de cette dernière drogue et mêlez bien le tout avec l'ouvrage des filles du taureau d'Athènes, miel attique. Telle est la composition du philonium. Quel est le précieux de l'hôtel de Rambouillet qui eut mieux que cet ancêtre cultivé la périphrase? Mais voici d'autres spécifiques qui nous ramènent au crapaud. Décidément, cet humble animal jouissait autrefois d'un prestige énorme. On croyait communément qu'il possédait dans sa tête une petite pierre, appelée crapaudine, qui réduite en poudre et absorbée dans un verre de vin blanc, avait le pouvoir de guérir la peste. Il fallait de préférence choisir les vieux crapauds ventrus et surtout ne pas les fixer trop longtemps de suite sous peine d'attraper la jaunisse. On pouvait aussi prendre de la même façon les pierres qu'on trouvait dans le corps ou dans la tête de différents reptiles, de même que les pierres extraites du corps des vieilles et grosses araignées ayant une croix sur le dos. Les malades délicats, qui éprouvaient une répugnance bien légitime à avaler ces pierres d'araignée, se contentaient de les porter suspendues au cou en guise d'amulette. Cela faisait à peu près autant d'effet qu'à l'intérieur. Quant au traitement extérieur de la peste, il était également fort compliqué. Il existait des préservatifs pour toutes les parties du corps, depuis le front jusqu'aux pieds, sans préjudice des amulettes et des sachets magiques. Ces préservatifs, ou épithèmes, appliqués sur la peau, jouaient le rôle de sinapisme ou de vésicadoire. Ils étaient censés absorber l'inflammation et le venin du corps et empêcher d'autre part le poison subtil d'attaquer la partie qu'il défendait. Voici la recette d'un de ces épithèmes, dit l'épithème de Ranzovius. Prenez un vieux pigeon blanc s'il s'en peut trouver, faites-le nourrir avec de la graine de chardon béni, puis le fendez par le milieu et le farcissez avec de bons thériarques dissous avec du jus d'ail, et l'appliquez tout chaud sur le cœur. Guillaume Potel, chirurgien juré, natif de Meaux, a formulé dans son traité de la peste la composition d'un fronto ou épithème céphalique destiné à être posé sur le crâne comme une compresse. Il est relativement simple, n'étant par exception formé que de 4 substances, moelle de serre, semence de jusquiame, poudre de diamargaritum froid, poudre de pain bien levée trempée en lait de femme. On traitait par la même méthode les charbons, pustules et bubons de la peste en appliquant dessus des onguents ou des cataplasmes qui les mûrissaient et les faisaient percer. Ambroise Paré employait des cataplasmes de suie de cheminée avec du sel et des jaunes d'œufs. Jean Fabre, entre autres composés, conseillait l'onguent suivant aux pestiférés. Pois naval, 1/2 livre, pois résine, 4 onces, térémentine, 2 onces, cire, 1 livre. Le tout fondu ensemble, ajouté 1 once de myrrhe, bien pulvérisée, et d'aloès, 3 onces de thériaque fine, 2 onces de poudre de crapaud, 1 once de cendre de serpent, 1 once de poudre de grenouille, le tout bien mêlé. Mais en dehors de ces combinaisons pharmaceutiques, il y avait bien d'autres moyens bizarres de guérir les bubons. Par exemple, d'appliquer dessus des poules ou des pigeons éventrés vivants, ou des petits chiens coupés par le milieu, sans oublier les inévitables crapauds, qui eussent facilement fourni la matière d'un ouvrage sur les 99 façons de les accommoder. D'autres appliquent le crapaud entier et vivant sur le bubon pestilent, et tiennent que par quelques vertus occultes, il tire à soi le venin qui le fait enfin crever. Une autre catégorie de remèdes contre les bubons consistait dans certaines pierres précieuses auxquelles on attribuait le pouvoir de les faire crever. Ces superstitions, venues de l'Orient, ou renouvelées de l'Antiquité, avaient du moins l'avantage de ne pas augmenter l'inflammation et de ne pas infester encore plus les malades crédules qui en usaient. Le rubis, l'émeraude, la perle exerçaient sur les bubons une influence bienfaisante. Le simple contact du saphir oriental le faisait crever. On arrivait encore à ce résultat en mettant dessus un morceau de jaspe vierge, c'est-à-dire sang rouge, sur lequel était gravée l'image d'Hercule étouffant un lion. Mais il fallait pour cela que le soleil fût dans la constellation du lion et que la nouvelle lune n'eût pas plus de 3 jours. Toutes ces conditions étaient des échappatoires, dans le cas toujours probable où l'expérience ne réussissait pas. Tout ce qui était suspendu ou porté sur quelques parties du corps s'appelait des périaptes. Les vieux traités sur la peste en citent de curieux. Par exemple celui-ci. Si vous gravez sur un jaspe vert, lorsque le soleil est en Gémini, le cinquième de la lune, la figure d'un serpent rond mordant sa queue, et que vous portiez cette figure sur le cœur, vous ne pouvez prendre la peste. Ou, si l'on était atteint du fléau, on recouvrait la santé en gravant sur une pierre hématite un homme à genoux tenant de la main droite la tête d'un serpent et sa queue de la main gauche, en faisant monter cette pierre en bague et en portant cette bague au médium de la main gauche. Ce talisman provenait des rois de Perse qui l'avaient, dit-on, souvent employé avec succès, non seulement contre la peste, mais encore contre toutes sortes de poisons. Serenus Sammonicus, médecin italien du IIIe siècle, possédait le secret d'une amulette encore plus merveilleuse qu'il suspendait au cou de ses malades avec un fil de lin. C'était tout simplement un carré de papier ou de parchemin sur lequel il suffisait d'écrire et de disposer le mot cabalistique « abracadabra » de la manière suivante: abracadabra, abracadabre, abracadab, abracada, abracad, abraca, abrac, abra, abr, ab, a. Ce simple jeu de mots passait pour couper radicalement la fièvre la plus tenace, mieux que ne saurait le faire aujourd'hui 2 grammes de quinine. Quelle belle chose que la magie! Les amulettes et périaptes en tout genre ne protégeaient pas seulement les personnes isolées. Ils pouvaient aussi préserver du fléau toute une ville ou toute une province. Pour arriver à ce beau résultat, il était bon d'en jeter dans les rues et d'en semer à profusion dans les champs, car ce sont comme des aimants qui attirent le venin et le consument. Enfin, s'il faut en croire les légendes fabuleuses qui nous sont contées, même par des auteurs assez dignes de foi, il se serait trouvé au Moyen-Âge des sorciers assez puissants pour apaiser les plus violentes pestes rien que par leur sortilège. Valério l'assure de bonne foi que l'épidémie de 1522 à Rome se termina de cette façon imprévue. Du temps du pape Adrien VI, écrit-il, la peste qui était horrible fut apaisée par les enchantements et charmes d'un certain Démétrius, lequel, nonobstant la défense du pape d'user de ses remèdes, poussé du peuple, produisit en la place publique un taureau furieux, duquel il coupa les cornes, et ayant murmuré quelques vers à ses oreilles, il le rendit si adouci qu'avec un seul filet, il le promena par toutes les places publiques de la ville et puis l'immola dedans l'amphithéâtre, ce qui fit cesser la peste. Arrêtons-nous ici. Il est superflu de pousser plus loin ces citations désobligeantes pour la mémoire des vieux médecins, et aussi des vieux malades. Une conclusion pratique et rassurante se pose d'elle-même après ce bref coup d'œil en arrière. À savoir que la médecine et la prophylaxie, ayant fait de gigantesques progrès depuis le Moyen-Âge, la peste, en admettant qu'elle nous atteigne, ne pourra le faire avec la même cruauté. Nos médecins n'ont pas la pratique de cette maladie. Mais les admirables théories de Pasteur sont applicables à ces bacilles un peu plus actives que les autres. Jadis, au contraire, il n'y avait pour cela d'autres méthodes que l'empirisme. On allait à l'aveuglette, sans aucune base certaine, chaque savant marchant au gré de son initiative. Et quand on examine les remèdes à la fois comiques et navrants dont disposaient nos ancêtres, on comprend leur épouvante. Et l'on admire la douce philosophie de ce vieux proverbe qui résume toute l'insouciance gouailleuse de la race. En dépit des médecins, nous vivrons jusqu'à la mort. Ainsi s'achève Comment on traitait la peste dans l'ancien temps, par Robert Francheville.